Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Bienvenue, bonjour mesdames et messieurs. Merci encore de votre fidélité à parcourir avec moi ce monde de la transition énergétique sous ses différents angles. On en a fini avec la biomasse. Je voudrais, parce que j'ai eu l'occasion de me pencher sur cette question, aujourd'hui, vous faire profiter de certaines réflexions sur la question de la mobilité électrique, qui est un sujet majeur de cette transition. Tout d'abord, très clairement, je ne vais pas faire un cours à la Jean-Marie Tarascon, parce que ça, vous en avez, il en a fait, c'est le grand spécialiste mondial de la batterie électrique, c'est un des spécialistes mondiaux de la batterie électrique, des matériaux pour la batterie électrique, j'ai la chance de le côtoyer quotidiennement, on parle beaucoup de ces sujets-là, donc j'apprends aussi de lui, mais évidemment, à part un ou deux moments où je rappellerai comment fonctionne une batterie, ce n'est pas un cours de chimie sur les batteries. Le séminaire ensuite, Jean Coldéfi, que je présenterai, n'est pas non plus un chimiste, je crois, donc ça ne sera pas de la chimie. Mais il nous parlera, c'est un grand spécialiste de l'organisation des mobilités, et il nous parlera de ce sujet. Je le présenterai tout à l'heure. Voilà, donc la première chose que je voudrais dire, c'est que tout indique l'utilisation de la voiture individuelle, enfin la civilisation de l'automobile, va perdurer encore très longtemps. Il n'est pas impossible que nous continuions à voir ça pendant très longtemps. Et c'est pas très étonnant, en fait, hein, parce que, évidemment, l'automobile, c'est un secteur industriel mondial de toute première importance, évidemment en Europe et en France, mais dans le monde entier. Ça veut dire une quantité d'emplois considérable. C'est l'équivalent, en équivalent temps plein, 210 000 emplois en France. C'est 4 milliards de recherche et développement. Donc c'est vraiment une industrie particulièrement importante. La deuxième raison, c'est que, évidemment, il y a tout un tas de problématiques de type urbanisme diffus, dilution des populations dans les territoires, habitudes individualistes, déficience dans les transports collectifs, transports en commun, qui font que, effectivement, on ne va pas se débarrasser de la voiture, donc la voiture sera présente sur la planète, et vous allez voir les chiffres encore longtemps et encore plus qu'aujourd'hui. Et puis, évidemment, la voiture, c'est aussi la liberté, c'est cette capacité que nous avons, grâce à elle, d'aller à la rencontre de notre voisin, des autres, du monde, en toute liberté, assez facilement. Voilà. Alors, quand on analyse, au fond, l'ensemble des chemins de la transition énergétique, c'est clair que la dynamique qu'on voit aujourd'hui sur la mobilité électrique, c'est une des plus importantes. Bien sûr, il y a les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, mais la mobilité électrique fait partie de ces dynamiques majeures. Demain, il y aura plus de voitures, mais elles seront électriques, à n'en pas douter. Alors, là aussi, c'est le résultat de plusieurs facteurs. C'est évidemment la prise de conscience, je vais montrer quelques chiffres, mais vous les connaissez, c'est assez clairement le transport est un des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Deuxièmement, il y a beaucoup d'investissements dans les industriels, publics. Il y a le fait qu'il y a de la recherche qui fait évoluer ce domaine assez rapidement quand même si c'est jamais assez vite. Et puis, il y a l'investissement des entreprises automobiles. Donc, il y a une vraie dynamique. Alors, premier point rapidement, hein, vous le savez, le secteur du transport, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. à peu près presque autant que le bâtiment. Donc c'est un secteur qui est visé depuis longtemps. Il faut s'attaquer à ça si on veut. Et vous savez que le transport, je l'ai montré à plusieurs reprises, c'est le gros consommateur de pétrole qu'on veut remplacer. Il faut quand même faire une remarque. Rappeler ça, parce qu'on parle presque exclusivement de l'avion, mais c'est quand même le transport routier hein, qui est l'émetteur de CO2. Comme vous le voyez ici en Europe, c'est plus de 70%. Et en France, c'est à plus de 90% le transport routier qui est émetteur de CO2. Hein. Il y a les voitures particulières, les transports de marchandises, les motos, les bus, enfin tout ça, ça fait 90%. Donc c'est ça le secteur. Et donc, voilà, on peut être obnubilé par l'avion, par le secteur aérien, parce que tout le monde ne prend pas l'avion, encore qu'il y en a de plus en plus qui le prennent, mais c'est quand même ce secteur-là, et c'est surtout de ça dont je vais parler. Alors, c'est quoi la situation aujourd'hui ? C'est 39 millions de véhicules en circulation. Il y a à peu près 1,5 million de voitures qui sont... le marché, c'est à peu près 1,5 million de voitures. Et vous avez autour de 1 million de véhicules électriques. Hein. Tout le reste, donc 98% de voitures qui circulent en France, ce sont des voitures diesel et essence. Donc 1 million de véhicules électriques. Donc c'est 2,5%, c'est à peu près ce qu'il y a dans le monde. Et le marché, vous voyez, ça commence à devenir significatif, hein, c'est 13% de véhicules électriques, 12% d'hybrides rechargeables. On voit donc une véritable dynamique hein, en France. Je donne quelques chiffres ici. Comme vous le voyez, c'est cette montée, très clairement, où vous avez en 2022, là c'est fin 2022, à peu près 1 million de véhicules. Vous voyez un chiffre récent, fin 2023, un million, un peu plus d'un million de véhicules électriques. 100% électrique et 500 hybrides rechargeables. Donc ça monte, hein, vous voyez, 1 million en 2022, 1,5 million en 2023, donc il y a une véritable dynamique. Et tous les scénarios indiquent que nous allons, si les choses se passent normalement, nous allons vers en 2035, vous voyez ici c'est un scénario, une dizaine de millions de véhicules électriques, donc sur 40 ça commence à devenir significatif. RTE fait des scénarios avec plus de voitures électriques encore, 15 millions, l'objectif, vous voyez, c'est qu'on vende et que le marché corresponde à 2 millions de véhicules électriques par an en 2030, produits en France, avec un chiffre pour 2023 qui est de 300 000. Ça fait quand même un facteur 7, c'est assez important comme objectif. Donc voilà les tendances. Alors, c'est quelque chose qui est mondial. Hein. Ce sont des scénarios, des analyses prospectives sur la montée en puissance du véhicule électrique. Comme vous voyez, en 2023, ici, on est autour de... Il y a à peu près 1 milliard de véhicules sur la planète. Il y a 90 millions de ventes. Il y a 2,5% de véhicules électriques, 26 millions. Le marché, c'est 13%. Donc, vous voyez, c'est à peu près comme en France. Et donc, ce qui est prévu, c'est 40 millions de ventes de véhicules électriques. Donc, c'est cette montée ici des barres vertes. Donc, voilà, tout indique qu'il y a cette montée d'un marché de véhicules électriques, même si vous voyez ici, et j'y reviendrai, c'est que la vente de véhicules légers augmente, elle ne diminue pas, d'accord ? C'est ce que je disais en introduction, il n'y a pas une disparition du véhicule en prévision sur la planète, mais ce qu'on voit, c'est que la part verte ici, donc des véhicules électriques, est de plus en plus grande. Donc c'est ça la tendance. Alors, effectivement, à l'échelle mondiale, et ça, on aura l'occasion de le redire sur plein de sujets, c'est déjà un marché dominé par l'Asie, et notamment par la Chine. Vous voyez d'ailleurs que entre 2022 et 2021, c'est plus 80% en Chine de véhicules électriques, c'est plus 13% en Europe, plus 49% aux États-Unis. Donc vous voyez ici, ça ce sont les ventes hein, de véhicules électriques et hybrides rechargeables, on fait la somme des deux, et vous voyez cette montée, donc c'est ce que je disais, mais vous voyez que... il y a des augmentations très fortes. Donc la part chinoise est très importante. L'Europe n'est pas nulle, hein, elle est significative. Mais on voit que l'augmentation de la part européenne n'est pas aussi grande que la montée de la part chinoise. Donc il y a une dynamique encore plus forte dans un pays comme la Chine. Et voilà, donc... Et puis par ailleurs, vous l'avez entendu dans les médias, aujourd'hui, si on prend le top 10 des voitures, des entreprises hein, automobiles, c'est la première maintenant, c'est BYD, c'est une entreprise chinoise. Donc ça, on va le retrouver assez souvent. Donc ce sont les tendances. Alors, je termine sur cet aspect-là. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Il y a des scénarios, des scénarios prospectifs de ce type-là. Ça, c'est Bloomberg, NEF. Mais il peut y en avoir d'autres, mais c'est juste pour donner le message suivant. On nous dit zéro carbone en 2040, 2050. Mais quand on regarde le secteur de l'automobile, malgré cette dynamique que je vous présente, malgré tous les efforts des entreprises automobiles, de la recherche sur les batteries, et y compris dans les grands pays comme la Chine, la tendance, c'est qu'on va passer de 1 milliard de véhicules à 1 milliard 6 en 2040. Donc c'est une augmentation, comme je l'ai dit, des véhicules électriques. S'il y en a 500 ou 600 millions... qui serait déjà une vraie révolution sur la planète. Hein. 500, 600 millions de véhicules sur la planète électriques, je ne suis même pas sûr qu'on y arrivera, mais si on a ça, il restera toujours 1 milliard de véhicules thermiques. On n'aura rien changé à la consommation de diesel et d'essence. Donc il n'y aura pas zéro carbone de l'automobile en 2040-2050, il ne faut pas rêver. Et par ailleurs, évidemment, la question se pose, bien sûr, parce que ça, c'est une autre question, c'est cette partie-là, il y a de fortes chances que ça soit encore avec des fossiles, pétrole, gaz. Et la question, c'est, est-ce que on aura la capacité, et c'est de la recherche et du développement qu'il faut mener, qui a commencé, mais là on est avec des secteurs, des filières qui sont encore peu matures, chères sur le plan économique, etc. Mais c'est toute la question des carburants alternatifs dont je vous ai dit que je vous parlerai à une autre occasion. Mais il faut bien avoir ça en tête. Hein. Il y a la révolution de la mobilité électrique, mais il y a quand même la constance d'un véhicule thermique sur la planète. L'autre tendance, c'est que évidemment, si vous faites des véhicules électriques, il faut des bornes de recharge. Alors, les bornes de recharge, pendant longtemps, on a dit, on peut pas développer le véhicule électrique s'il n'y a pas assez de bornes de recharge. Il faut investir massivement là-dessus. Bon, vous voyez, la tendance, elle existe hein, quand même, et je pense qu'il y a eu une sorte d'accélération à partir de 2020. Ça, c'est les derniers chiffres. Autour de 110 000. Bornes de recharge, ce n'est pas rien. L'objectif de France 2030, hein, le programme français 2030, c'est 400 000 points de recharge. Bon, voilà. On a démarré en 2000, au début des années 2000. Vous voyez, en 20 ans, on a fait 100 000 bornes. Bon, là, il faut en faire 300 000 en 7 ans. C'est une autre dynamique hein, qu'il faut mettre en place, mais je crois que les acteurs sont mobilisés. Quand on a ces chiffres-là, comment ça se compare en Europe? Ben voilà, on est pas trop mauvais. On est en seconde position derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne. Voilà. Par ailleurs, bon, vous savez que j'y reviendrai. Hein, la recharge, la question de la recharge est aussi liée au enfin, nécessite de discuter quel type de chargeur on met en place. Il y a différentes puissances qui sont possibles, mais il faut savoir que pour le moment, hein, près de 90% des bornes ont des puissances faibles, inférieures à une vingtaine de kilowatts. Vous verrez tout à l'heure que ça veut dire que les charges sont lentes, hein, mais c'est moins cher. Les chargeurs rapides, aujourd'hui, en France, c'est-à-dire autour de 150 kW ou au-dessus, sont sur les aires d'autoroute. Hein. Et vous voyez ici, il y a déjà pas mal d'aires d'autoroute qui sont équipées avec des chargeurs. Je crois qu'il y a voilà, 60% des aires sont occupées, possèdent des points de charge. Et sur ces points de charge, vous voyez, il y en a 800, 70% ont des puissances élevées. Donc évidemment, on a intérêt, vous verrez un petit calcul que je vous présenterai tout à l'heure qui est un peu ébouriffant. Je l'ai fait plusieurs fois, vous vérifierez vous-même si c'est juste. Mais effectivement, il y a intérêt sur les autoroutes où il y a beaucoup de monde d'avoir des recharges rapides et donc de la puissance. Alors... voilà la situation, et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a donc une injonction européenne, c'est l'été 2022, qui interdit donc la commercialisation, hein, ça ne veut pas dire que ça interdit le fait qu'on en ait, mais la commercialisation des véhicules thermiques en 2035. C'est ce que, de cette façon-là, l'Union européenne impose à l'industrie automobile donc une marche forcée vers le véhicule électrique, donc il va demander, c'est en route, mais une transformation absolument considérable, et comme certains le disent, peut-être trop intense, trop rapide. Il y a beaucoup de débats sur cette question-là, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que nous dit l'Union européenne. Alors, juste rapidement, qu'est-ce que ça soulève comme difficulté? La première, enfin, en gros, hein, pour simplifier, ça met donc en difficulté une industrie, l'industrie de l'automobile européenne qui est véritablement dominante, et avec la perspective éventuellement de remplacer, de la perdre, et de toute façon elle sera perdue si on n'a plus de véhicule thermique, mais de la perdre pour la remplacer par une industrie du véhicule électrique qui pourrait être dominée par d'autres pays que l'Europe. Et donc ça veut dire, en tout cas à court terme, des pertes d'emplois, des problèmes de rentabilité. La rentabilité viendra que lorsqu'il y aura un marché plus élevé en Europe. C'est la concurrence, avec les pays asiatiques et la Chine. Il y a tout un tas d'autres sujets. Il y a la question de la souveraineté aussi en termes d'approvisionnement en métaux. Comme vous le savez, je le montrerai, ce sont des technologies qui demandent des quantités massives de ressources minérales. Et puis il y a la question de la maîtrise des coûts. Aujourd'hui, l'industrie européenne automobile produit des véhicules électriques qui sont, pour tout un tas de raisons économiques, coûts salariaux, coûts du travail, etc., plus élevés que ceux de la Chine. Il y a en particulier, me semble-t-il, une tendance à vouloir faire sur place des grosses voitures et de délocaliser la production de petites voitures. Bon, tout ça soulève tout un tas de questions d'ordre sur la souveraineté industrielle, sur la possibilité de nouvelles dépendances, Il y a un déficit commercial hein, du secteur de l'automobile et donc la possibilité d'un accroissement du déficit commercial. Donc, confronté à ça, l'industrie européenne se retrouve avec des enjeux absolument majeurs que je résume ici. C'est la mise en place d'un énorme projet industriel pour l'Europe qui se traduit dans une liste comme ça d'enjeux. Évidemment, la production de voitures électriques, bon marché sur le territoire, national bien sûr, parce qu'il y a une industrie française, et européen, et évidemment parce qu'il y a une industrie européenne, il y a des pays européens qui sont très, très développés en matière de production de voitures. La voiture électrique, c'est pas tout. Peut-être le plus important, c'est la batterie électrique, c'est là qu'est la grande valeur de la voiture électrique. Et tous ceux, tous les pays, toutes les industries, toutes les entreprises qui maîtriseront la technologie de la batterie la plus évoluée et son coût, ce sont ces entreprises-là qui gagneront. Donc il y a un véritable enjeu de mettre au point des batteries performantes, bon marché et évidemment de les produire sur le territoire national et européen. Ça, c'est deux grands enjeux majeurs. Alors, comme vous le verrez, si on veut des voitures électriques, il faut de l'électricité. Comme vous le savez, parce que je l'ai répété mille fois, donc notre niveau de production électrique pratiquement n'a pas changé depuis 30 ans. Hein, c'est autour de 450-470 TWh. Certes, on va diminuer peut-être, encore qu'on ne l'a pas encore fait, notre production électrique, enfin notre consommation d'énergie, la consommation électrique doit augmenter parce que nous voulons électrifier des tas de choses, mais en tout cas, il faut de la production électrique pour alimenter. Donc il faut une montée en puissance des ressources électriques pour la charge. Il faut donc un réseau beaucoup plus développé que celui actuel de stations de recharge. C'est vrai en France et c'est vrai en Europe. Il faut sécuriser les approvisionnements en ressources minérales, si on veut faire ça sur notre territoire. Et puis, sans doute, et en lien avec ce point-là, on va donc se retrouver avec des quantités massives de batteries de fin de vie qui sont riches de tout un tas de ressources minérales potentielles. Et donc, il faut créer une nouvelle industrie de récupération, de recyclage des matériaux, des batteries de fin de vie. C'est un sujet qui est absolument passionnant sur le plan scientifique, très complexe. Il s'avère que dans un passé pas si lointain, j'ai travaillé sur ces questions, notamment en collaboration avec Veolia, mais on est très loin du compte aujourd'hui. Voilà, donc l'Europe, il y a une alliance européenne des batteries qui existe, et avec une volonté très claire de mettre en place des gigafactories, on appelle ça des gigafactories. On ne peut pas échapper à certains anglicismes, mais c'est ça, gigafactories, donc des usines de fabrication de batteries. Et vous voyez ici les différents endroits où il y a des projets et déjà des mises en place de ces gigafactories. Donc il y a une véritable volonté d'aller dans ce sens-là. Alors, bien sûr, il faut faire ça parce que, mais c'est assez cohérent avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, la demande en batterie va augmenter massivement. Vous voyez, aujourd'hui, on est autour de 400 gigawattheures par an de production de batteries à lithium, ion. Voilà, 2030, c'est 2000 gigawattheures qui est prévu. Vous voyez, c'est faut multiplier par 7 en 7 ans. Donc c'est tout à fait considérable. Et là aussi, sur la question de la batterie, hein, tout à l'heure je montrais les voitures électriques et la part notamment de la Chine, mais là on est clairement dans un secteur pour le moment où la Chine domine. En production des batteries, vous voyez, le reste du monde est la Chine. Donc c'est absolument considérable. Et quand vous regardez ici le top 5 des producteurs de batteries lithium-ion, ben vous voyez Chine, Corée du Sud, Japon, Corée du Sud, Chine. Je reviendrai à cette question au-dessus, mais voilà, c'est ça aussi. Donc, voiture électrique, bien sûr, batterie, marché pour le moment dominé par la Chine. Donc, toute la question de se sortir de cette dépendance potentielle qui peut arriver. Sur les ressources minérales, qui est une autre source de dépendance, oubliez la partie du dessous, mais voyez à peu près, ça ce sont les chiffres, en kilogrammes par mégawatt, vous voyez que une voiture thermique, voiture conventionnelle ici, consomme à peu près 7 fois moins de métaux, cuivre, lithium, nickel, manganèse, cobalt, etc. Il y a du graphite aussi, on verra pourquoi. Donc là, on va passer d'un monde déjà assez consommateur de ressources minérales, mais à un monde où ça va exploser. Donc ça c'est la réalité, parce que toutes ces technologies-là font appel, notamment à travers la batterie, et pas que le lithium, d'autres métaux, comme vous allez le voir, un besoin massif de ces ressources. Et je crois que l'année dernière, il y a eu un séminaire sur cette question de Christophe Poinceau, dont je vous renvoie à la problématique, qui est le directeur du BRGM et qui connaît bien le sujet. Et effectivement, il y a une véritable contrainte sur ce sujet-là. Et là aussi, ceux qui maîtriseront à la fois l'extraction, le raffinage et de ces métaux vont jouer un rôle majeur. Ça, c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Donc, vous voyez ici, par exemple, en termes de lithium. C'est un cas où c'est pas l'Asie le plus gros producteur de lithium, c'est l'Australie. En second, le Chili, la Chine, l'Argentine, le Brésil. Mais bon, voilà, on voit pas un seul pays d'Europe. On voit les États-Unis. Donc là, il y a une dépendance potentielle. Et voilà, maintenant, si on regarde les choses globalement, vous voyez, cuivre, nickel, cobalt, qui sont des métaux extrêmement importants pour les batteries, lithium, bien sûr, terres rares, parce qu'il y a des moteurs électriques qui ont besoin de terres rares. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Attention. Donc, vous voyez que les ressources, là où on extrait ces métaux, c'est pas uniquement en Chine. Les terres rares, c'est le cas, c'est en Chine pour l'essentiel. Mais voyez, le lithium, donc je l'ai dit, c'est l'Australie. Le cobalt, c'est le Congo. Le nickel, l'Indonésie. Le cuivre, le Chili, etc. Mais ça, ce n'est que l'extraction. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il n'y a pas l'Europe là-dedans, pas la France, alors que l'Europe est riche en ressources minérales. La France est très riche en ressources minérales, c'est ce que nous a dit Christophe Poinceau. Mais comme vous le savez, nous avons pour l'essentiel décidé de ne plus faire un trou dans notre sol. Nous n'avons plus de politique d'extraction. Peut-être ça va revenir. J'espère que ça va revenir parce que nous avons des ressources, nous entendons parler de l'hydrogène naturel, qu'il faut faire des trous pour ça. On a parlé d'une mine de lithium, encore qu'il y avait déjà le trou de fait. Donc ça c'est une vraie question. Est-ce que nous aurons la capacité et l'ambition de reprendre une économie de l'extraction? Mais il n'y a pas que l'extraction, il y a le raffinage. Et là, vous voyez tout de suite, ça bascule presque tout sur la Chine. Les Chinois récupèrent tous ces métaux, sont les grands agents du raffinage de ces métaux. Et c'est eux, évidemment, qui fournissent ces métaux aux constructeurs de batteries. Donc c'est extrêmement important. Et donc, vous voyez, au bilan, on se retrouve sur toute la chaîne. Vous voyez, sur toute la chaîne de l'économie de la mobilité électrique, au départ, L'extraction, bah, c'est un peu réparti partout sur la planète en fonction des ressources qu'il y a dans le sol. Au niveau du raffinage, ça commence à devenir très rouge, donc c'est les Chinois. Au niveau des composants cellulaires de la batterie, ça devient très très chinois. Les batteries aussi, et le véhicule électrique, la Chine est très importante. Les autres, évidemment, pour faire leur véhicule électrique, récupèrent les batteries et les métaux des autres, enfin de la Chine. Bon, ça c'est vraiment un aspect extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Voilà. Voilà le contexte. J'ai fini la première partie de ce que je voulais dire. Et maintenant, je voudrais revenir sur quelques questions techniques, scientifiques, qu'il est important, de mon point de vue, de préciser. Voilà les questions que je pose. Il y en a peut-être d'autres. Hein. La question de l'empreinte carbone du véhicule électrique, la question de la densité énergétique des batteries, et donc ça débouche sur la question de l'autonomie, peut-être du temps de charge, la question des besoins en électricité, et enfin, si j'ai le temps, dire un mot de ce qu'on appelle la stratégie « vehicle to grid », voiture au réseau, pour les questions de stockage électrique. Alors, l'empreinte carbone du véhicule électrique, j'ai ce souvenir de, je crois que c'était juillet 2022, quand on nous annonce donc la décision de l'Union européenne d'interdire les véhicules en 2035, j'écoute dans les médias, radio, télé, les réactions, et 100% des gens qui interviennent pour dire « Formidable, la voiture va devenir totalement propre. » Et donc c'est formidable. Bon, pas un pour dire que le problème n'est pas que la voiture soit électrique ou thermique, mais la question c'est quelle énergie on met dans ces voitures. Et la voiture électrique, elle est effectivement propre quand elle fonctionne, qu'elle est chargée, mais elle n'est pas totalement propre, comme je vais vous le montrer, selon d'ailleurs les mix électriques qui sont utilisés. Parce que, alors, première remarque quand même, en effet, ce remplacement-là, c'est la possibilité, en effet, de consommer moins d'énergie globalement sur le transport, hein. En gros, pour sortir à peu près la même quantité d'énergie entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, eh bien, il faut beaucoup moins d'énergie primaire pour la voiture électrique que pour la voiture thermique. C'est des questions de rendement. Donc là, si on remplace 40 millions de véhicules thermiques par 40 millions de véhicules électriques, globalement, on doit consommer moins d'énergie. Par contre, évidemment, il faut bien voir que tout dépend du type d'électricité que vous mettez dans votre batterie. C'est absolument essentiel. Je crois que ça me paraît évidemment d'une très grande trivialité, mais je continue à voir des gens qui oublient cela. Juste une comparaison, quelques comparaisons. Vous voyez ici le moteur thermique, diesel, gasoil. Vous voyez, il y a des chiffres variables hein, selon les études, mais mettons autour de 200 grammes par kilomètre. Si votre électricité est à base de charbon, vous pouvez oublier. C'est mieux d'avoir un véhicule thermique qu'un véhicule électrique dans lequel l'électricité vient de centrales à charbon. Même le gaz, qui évidemment est moins émetteur de CO2 que le charbon, vous voyez, c'est autour de 120-130. Vous voyez, le mix européen qui est très carboné, on gagne, mais on gagne à peu près un tiers. Donc la voiture électrique en Europe, si le mix électrique ne change pas, ce n'est pas une voiture propre, c'est une voiture très sale, moins sale que le diesel, entre guillemets, enfin sale au point de vue des émissions de CO2, mais c'est une voiture moins sale, mais enfin, quand on aura 100% de véhicules en Europe avec ce mix électrique tel qu'il est aujourd'hui, Il n'y aura pas zéro carbone dans le transport. Hein. Voilà. Et la France, le grand pays vertueux en matière d'émissions de CO2 pour son électricité derrière la Norvège, à nouveau grâce à cette combinaison d'hydroélectricité et d'énergie nucléaire bas carbone, vous voyez que même dans un pays où l'énergie électrique, la production électrique est à 90% décarbonée, on gagne deux tiers, mais il n'y a pas de zéro carbone. Il n'y a pas de voiture zéro carbone pour le moment, et donc c'est une chose extrêmement importante. Et là, c'est un autre chiffre d'une autre étude, vous voyez, c'est carbone 4. Bon, voilà, faire de la voiture électrique en Pologne ou en Inde, ça sert strictement à rien. En termes d'émissions de CO2. Alors évidemment, ça a d'autres avantages. On parle de la pollution de l'air, etc. Bien sûr, là il y a des éléments qui sont en faveur de la voiture électrique. Donc ça, c'est extrêmement important. Et là, je note, hein, il faut le savoir, que pour le moment, on fait à la fois du véhicule hybride rechargeable et du véhicule électrique. Mais là, c'est encore pire pour le véhicule hybride rechargeable. Ce n'est pas bon, c'est encore moins bon. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième problème, la question de la densité énergétique. Et je vous invite à regarder à nouveau cette figure que j'avais élaborée il y a très longtemps, que je ressors chaque fois, vous l'avez déjà vue, où vous avez ici, en ordonnée, la densité d'énergie volumétrique, ici c'est en mégajoules par litre, et ici c'est la densité d'énergie gravimétrique, c'est en mégajoules par kilo. Alors, vous comprenez bien que l'idéal, c'est de trouver un carburant pour le transport qui soit tout en haut et à droite de ce graphe, le plus d'énergie dans la plus petite masse et dans le plus petit volume. Alors, on regarde tout ce qu'on a, et qu'est-ce qu'on a ? Bah, vous voyez, c'est formidable, on a les fossiles, là. Voilà. C'est pour ça qu'on les a, d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'ils sont là. Voilà. Et qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Le pétrole, énormément d'énergie dans une petite masse et dans un petit volume. C'est un liquide, c'est formidable. Bon, le gaz, c'est moins intéressant, mais... Voilà, on est autour de 40 mégajoules par kilo, 35 mégajoules par litre. Le pire de tous ces trucs, c'est la batterie. Elle est dans tout en bas et le plus à gauche. C'est 10 fois moins et c'est effectivement le problème. Et c'est ça qui va déboucher sur toutes les problématiques auxquelles on va être confronté, mais auxquelles il faudra s'adapter ben, si on veut des voitures électriques, et c'est ce qu'on va faire. Un cas extrême, c'est l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène, formidable. C'est une densité massique, c'est-à-dire une énergie contenue dans cette petite liaison hydrogène-hydrogène qui est très importante, ce qui fait des densités en mégajoules par kilo pratiquement trois fois plus élevées que le pétrole lui-même. Bon, malheureusement, c'est un gaz, et donc il est tout en bas, et donc vous voyez bien qu'il faut que vous ne pouvez pas faire une voiture hydrogène avec de l'hydrogène-gaz à moins qu'il y ait un camion-citerne derrière chaque voiture. Ce qui, évidemment, ne se fera pas. Voilà. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ça a plein de conséquences, comme vous le savez. Et je voudrais juste, donc, rappeler le fonctionnement de la batterie. Je remercie X papier de Jean-Marie Tarascon. J'en cite un ici, qui explique ça très bien dans ses cours, dans ses publications. Donc, vous voyez, une batterie électrique, c'est composé, donc, d'une cathode... électrode positif, donc qui contient des matériaux qui peuvent insérer du lithium, des atomes de lithium. Ce sont en général des oxydes métalliques lamellaires. Et là, vous voyez apparaître non seulement le lithium dans les formules de ces oxydes, mais aussi le cobalt, le nickel, le manganèse en particulier, et le fer dans les filières lithium-fer-phosphate. Et vous avez ensuite une anode, une électrode négative, et essentiellement constituée de graphite, qui, là également, peut insérer des atomes de lithium. Et vous avez un électrolyte, et cet électrolyte c'est un liquide, essentiellement aujourd'hui des carbonates organiques. Et donc quand cette batterie est chargée et qu'elle se décharge, elle fournit des électrons par le fait que ce matériau carboné de lithium décharge des électrons et des ions lithium. Les électrons arrivent à la cathode. Les ions lithium traversent, pour équilibrer les charges, traversent l'électrolyte, arrivent sur la cathode, où ils réagissent avec les électrons, les oxydent, pour faire un composé d'insertion lithium-oxyde métallique. Et dans le cas, une fois que vous avez tout déchargé, évidemment, il n'y a plus d'électrons, et si vous voulez recharger, alors là, il faut mettre une source d'énergie, qui est représentée ici, vous mettez une source d'énergie qui apporte des électrons, et là, les électrons, ce sont les réactions inverses, les composés d'insertion ici relarguent leurs électrons et le lithium repart dans l'autre sens, s'insère dans le carbone en réagissant avec les électrons qui arrivent de l'autre côté. Voilà. Et une donnée qui est tout à fait importante, c'est ce qu'on appelle la capacité, c'est la quantité maximale d'énergie stockée. Alors on exprime ça en watts par kilogramme ou watts par litre, c'est la capacité massique ou capacité volumique. Oui, juste pour rappeler que cette révolution de la batterie lithium-ion a valu à ces trois chimistes d'avoir le prix Nobel en 2019. Alors, y a, en termes de densité d'énergie aujourd'hui, de capacité, vous voyez, on est ici. On est au niveau de 240 watts par kilogramme dans le meilleur cas. Alors, on vient de loin, hein, puisque en 1900, avec des batteries au plomb, on était beaucoup plus bas, hein, 20, quelque chose, 10 fois moins. Il y a eu dans les années 50, nickel-cadmium, dans les années 80, nickel-hydrure, etc. Aujourd'hui, on est dans le domaine des nickel-ions, on est ici. Ici, pardon. Alors, c'est simple, hein. 240 watts par kilogramme, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Voilà, vous mettez jusqu'à 300 kg de batterie, ce qui est déjà pas mal, et vous faites la multiplication et vous arrivez à quelque chose au maximum de 60 kWh d'énergie stockée dans la batterie. Sachant que vous consommez à peu près, alors il y a des chiffres divers, entre 15 et 17 kWh par 100 km, vous avez la réponse. Vous n'avez, avec cette capacité aujourd'hui maximale, vous n'avez que 400 km d'autonomie. Donc il y a beaucoup de buzz et d'annonces sur des autonomies absolument massives, mais la réalité c'est ça, c'est les limites de la physique. On ne peut pas faire. Alors si, vous pouvez mettre une tonne de batterie. Hein, vous pouvez mettre une tonne de batterie dans la voiture. Et effectivement, vous voyez, vous aurez là trois fois plus. Vous pourrez arriver à 1000 km. Hein, voilà. Mais bon, on ne va pas mettre une tonne de batterie dans une voiture. Donc ça, voilà, ça s'explique tout simplement. Et ça s'explique. Et ça, c'est les limites de la physique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne peut pas, etc. C'est parce que la physique nous dit que voilà, la capacité physique en ampère-heure par kilogramme, c'est cette équation. Et les deux paramètres, c'est la masse molaire du matériau qu'il y a dans la cathode ou l'anode et le nombre d'électrons qui a échangé. Comme vous avez vu dans mon schéma ici, le lithium, c'est un électron. C'est lithium donne Li plus un électron. Ce n'est qu'un électron. Donc le delta X ici, il est 1. Et la masse, c'est à peu près 100 grammes, la masse molaire. Alors si vous aviez des agents actifs autres que le lithium qui échangeraient plus d'électrons, vous voyez que vous pouvez passer à 2, à 3, etc. Bon, enfin, pour le moment, ça n'existe pas. Et donc, en gros, en prenant cette équation-là, vous arrivez à une capacité spécifique maximale qui est de 268 ampères-heure par kilogramme et qui se traduit par 320. Donc, théoriquement, et c'est à nouveau les limites de la physique, théoriquement, on ne peut pas faire plus avec une batterie lithium-ion que 320, 350 watts par kilogramme. Point barre. Donc là aussi, si vous mettez une batterie de 300 kilos, alors on n'y est pas encore, hein. Donc on est là, il faut monter là, donc là il y a de la recherche. Vous pouvez espérer des voitures avec 500 km d'autonomie. À nouveau, si vous mettez 300 kilos. Si vous mettez une tonne, c'est proportionnel. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette affaire-là, mais franchement, il ne faut pas exagérer. Comme vous le savez, le déplacement journalier moyen en France, c'est 50 km. Le déplacement annuel moyen, c'est 13 000 km. Bon, franchement, une autonomie de 500 km, c'est tout à fait raisonnable. Je crois que ça ne devrait pas être un argument pour rejeter, enfin, c'est mon point de vue, le véhicule électrique. 500 km, enfin, quand on y arrivera, c'est vraiment bien. Ouais. Oui, alors, les temps de charge, là aussi, hein, beaucoup de buzz et d'annonces mirobolantes sur Fastoche, on va charger la batterie en 2 minutes. Non, là aussi, il y a un problème de physique, hein, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bon, vous, là, rapidement, vous voyez une voiture thermique, 60 litres, 45 kilos, donc il y a 450 kWh, donc on, allez, mettons qu'on remplit son réservoir en 2 minutes, hein, à peu près. Bon, donc on met du 225 kWh par minute, hein, pour une autonomie, allez, 800 km. Une voiture électrique avec 60 kWh, 300 kg, hein, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous pouvez remplir en 30 minutes, et là ça fait du 2 kWh par minute, vous voyez c'est 100 fois moins que pour le véhicule thermique, mais là il vous faut des chargeurs de très haute puissance. 120 kW, c'est le calcul que j'ai fait. Bon, si vous avez des installations domestiques, hein, autour d'une dizaine de kW, vous échappez pas aux 6 heures de recharge, hein, c'est comme ça. Alors, charger en 2 minutes, vous faites un petit calcul, il faut un chargeur de 1800 kW. Voilà. Bon, ça n'existe pas, ça, à mon avis ça n'existera jamais, parce que 1800 kW, ça veut dire qu'il faut mettre un courant de 3000 ampères sous tension de 500 volts, avant qu'on fasse ça chez soi. Si on prend une décharge, là, ça fait très très mal. Hein. Et en plus, dans ce cas-là, il faut, si vous voulez, pour supporter, pour qu'un fil de cuivre supporte ça, il faut des câbles en cuivre surdimensionnés. Enfin, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, oui, il faudra prendre du temps pour recharger sa voiture électrique. Ça, on n'échappe pas à ça. Les besoins en électricité. Là aussi, calcul assez facile et que vous retrouvez d'ailleurs dans la plupart des scénarios, mais vous voyez, je le fais à la main avec vous. 2050, je dis, il y a 40 millions de véhicules électriques en France. Hein, c'est le chiffre actuel, mais c'est tout du véhicule électrique. Je ne sais pas si on y arrivera, mais enfin sûrement pas d'ailleurs, mais mettons que ça soit mon hypothèse. Mobilité 15 000 km par an, consommation 17 kWh pour 100 km, bon, peut-être qu'on fera mieux, hein, ce sera peut-être 15, 13, bon, enfin c'est pour donner un ordre de grandeur. Bah, vous faites le calcul, il vous faut 100 TWh d'électricité. En gros d'ailleurs, dans tous les scénarios que vous verrez, RTE, autre chose, le supplément dû à l'électricité du transport, c'est à peu près une centaine de TWh. Enfin, c'est pas rien, 100 TWh. C'est 10 EPR. C'est 10 EPR. Donc voilà. Vous voyez, on parle en France de construire 14 EPR. Bon, si on consacre déjà 10 pour la voiture, il va en manquer, hein, pour le reste. Donc c'est absolument énorme. Hein. Bon. Alors, deuxième remarque, c'est pas qu'une question d'énergie, il faut de la puissance. C'est-à-dire que, évidemment, si tout le monde appelle de l'énergie électrique au même moment, ce qui risque d'arriver, puisque c'est ce qui va se passer lorsque tout le monde rentre chez soi et se branche à la fin de la journée, éventuellement, il faut de la puissance. Et là, le calcul, c'est 40 millions de véhicules électriques, j'ai mes 10 EPR, donc j'ai 15 gigawatts, parce que de toute façon, il me les faut, hein, donc je les ai. Alors ici, je ne dis pas que certains vont me rétorquer, mais on n'est pas obligé de faire du nucléaire. Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Bien sûr, on peut faire des centaines de milliers d'éoliennes. Mais disons que, ici, mon propos n'est pas de défendre à nouveau le nucléaire. C'est juste pour donner un ordre de grandeur, pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc si j'ai mes 15 gigawatts avec des chargeurs de 7 kilowatts ou d'une dizaine de kilowatts, donc des chargeurs faibles, hein, domestiques, chez soi, je ne recharge pas les 40 millions de véhicules électriques. Voilà, j'en charge à peu près deux. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Enfin, les autres qui attendent, ils ne pourront pas recharger à ce moment-là, disons. Évidemment, il n'y aura jamais 40 millions de véhicules qui se rechargent au même endroit, mais juste pour l'amusement, ça fait 300 gigawatts de... Donc ça fait 200 EPR. Mais assez rapidement, si vous arrivez à mettre, évidemment, des chargeurs de puissance un peu plus importantes, c'est encore moins, hein, de véhicules électriques. Si vous n'êtes pas content de recharger en 7-8 heures, mais plutôt en 4-5 heures, etc., bon, c'est de moins en moins. Alors évidemment, si vous mettez que des chargeurs très rapides à 150 kW, bon, il va y avoir quelques. Les premiers qui vont se brancher, ouais, c'est bon. Et puis les autres, ils attendront la journée suivante. Voilà. Alors, j'ai fait ce petit calcul. Je vous le donne, vous le vérifierez. Il va y avoir quand même des moments où ça va être très tendu. Aujourd'hui, je prends l'exemple des autoroutes, les fameux week-ends. Rappelez-vous le cartoon, le premier que je vous ai montré avec les embouteillages. Les grands week-ends du 14 juillet, du 15 août, qui continuent d'ailleurs à être massivement embouteillés. Dans une situation normale sur les autoroutes, je crois qu'il y a à peu près 1000 véhicules par heure. Les grands week-ends, c'est entre 5000 et 7000 par heure. C'est énorme. Donc là aussi, je fais un certain nombre d'hypothèses. Des batteries de 60 kWh, vous avez compris pourquoi, hein, c'est mes 240 Wh par kilo, les 300 kg, enfin, etc. Une autonomie de 300 km, voilà. On va pas aller jusqu'au bout de la batterie au cas où on tombe pas pile au bon moment sur la borne. Une vitesse moyenne de 100 km/h. Et je prends le cas de l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, 300 km. Il y a 20 aires d'autoroute. Et je mets sur toutes ces aires des chargeurs à haute puissance, hein, pour qu'on recharge en 30 minutes. Ça paraît raisonnable parce que rester 5 heures sur une aire d'autoroute, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça, vous avez vu, qu'on met des chargeurs rapides sur les autoroutes. Bon, j'arrive à quelque chose absolument faramineux. Autour de 700 bornes par station et quelque chose comme en puissance deux réacteurs nucléaires de 1 gigawatt tous les 300 km le long de l'autoroute A7. Voilà, donc là aussi il faudra s'adapter, sans doute étaler d'une certaine façon les départs. Enfin voilà. Mais voilà, il y a une vraie question de la demande de puissance électrique. Dès lors qu'on multiplie à l'infini les voitures. Dernier point, je termine là-dessus, je suis dans les temps, c'est parfait. La stratégie vehicle to grid pour le stockage électrique. Bon, ça, vous souvenez, hein, j'ai déjà montré ça. À partir du moment, et on va le faire, où on met en place des capacités d'énergie intermittente, éolienne, solaire, comme je l'ai dit, des fois il fait pas nuit, des fois il fait nuit, des fois il n'y a pas de vent. À ce moment-là, on a besoin de ressources électriques qui ne viennent pas du vent et du soleil. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on a des centrales pilotables qui existent encore. Alors, centrales à gaz, de préférence décarboné, mais s'il ne l'est pas, ça sera du gaz naturel. Du nucléaire, le nucléaire a une certaine forme de pilotabilité, pas autant que les centrales fossiles. On joue sur la demande hein, des particuliers, des entreprises. Vous vous souvenez, j'ai dit tout ça. Il y a les échanges transfrontaliers, import-export d'électricité avec nos voisins. Et puis, il y a cette possibilité d'avoir pu capter et stocker de l'énergie solaire et éolienne au moment où ça soufflait très fort, au moment où il faisait très chaud, très beau, pour ressortir quelques temps après de l'énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le stockage de l'électricité. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, pour le moment, on ne l'a pas. Le seul qu'on ait, c'est le stockage hydraulique. Sérieusement, ce sont les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage. Hein. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué ça. Hein. C'est le barrage et les deux lacs à des hauteurs différentes. Il y a le stockage chimique. C'est l'idée de faire de l'hydrogène, électrolyser de l'eau avec l'excès d'électricité à un moment donné, l'été, du vent, du soleil, et ressortir l'hydrogène 6 mois plus tard, en janvier-février. Et puis, il y a le stockage électrochimique, donc les batteries. Stocker de l'énergie dans les batteries et le ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, il y a un premier problème. Hein. Il y a un problème de stockage intersaisonnier. Stocker sur 6 mois, il y a très peu de moyens. L'hydrogène est une solution. Il s'avère que je parlerai de l'hydrogène dans mes deux prochains cours. Je vous dirai quels sont les problèmes. Pour les batteries, comme vous voyez dans cette échelle de temps, c'est un jour, quelques jours. On ne stocke pas des batteries pleines, chargées pendant 6 mois. Ça ne marche pas. Donc, en tout cas, ça permet contribuer sur l'échelle de temps d'un jour ou deux d'équilibrer cette offre et demande électricité, dont vous savez que si cet équilibre n'a pas lieu, c'est le blackout et c'est la chute du système électrique. Donc il faut faire attention. Donc vous pouvez imaginer des méga-batteries. Hein, ici, j'ai donné cet exemple dans le passé, hein, de type Tesla Megapack, par exemple, qui existe, hein, 180 mégawatts de puissance. Bon, c'est pas terrible. Mais, et puis il y a cette hypothèse-là. C'est le fait qu'on a plein de voitures électriques, donc plein de petites batteries, et au moment où il y a plein d'énergie électrique intermittente, le système de régulation envoie cette énergie pour charger les batteries de nous tous, et puis au moment où il en a besoin, de récupérer les batteries, l'énergie électrique de ces batteries. Alors tout ça, évidemment, donc ça c'est l'hypothèse, c'est le schéma. Tout ça est très intéressant, mais en même temps, évidemment, il y a deux conditions. C'est que le particulier accepte que sa voiture serve à ça, et que évidemment, qu'au moment où il doit partir, c'est pas le moment où juste RTE a pris tout. Et deuxièmement, il faut sûrement que ça soit rémunéré. Bon, il y a tout un tas de mises en place. Mais sur le plan technique, c'est pas impossible. Et vous allez voir que ça peut... Alors, en fait, tout ça vient du fait qu'on a été très surpris par, au fond, la grande stabilité des batteries. C'est une grande découverte. Et maintenant, on a des expériences de cela, puisque les premières batteries Tesla... Panasonic, hein, ça fait maintenant plus de 10-15 ans, donc il y a un retour d'expérience. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une très grande stabilité de la capacité de stocker de l'énergie dans ces batteries. Au bout de 300 000 km, ce type de batterie n'a perdu que 10% de sa capacité de stockage d'énergie. Alors, ça change complètement la donne. Et là aussi, vous voyez, je fais une hypothèse. 15 millions de véhicules électriques pour faire ce système-là. Et tout démontre aujourd'hui qu'on pourrait aller jusque quelque chose comme 1750 cycles. Ça fait que la voiture, elle peut rouler 600 000 km, ça veut dire 47 ans. Bon, c'est sûr qu'il y a peu de chances qu'on garde une voiture pendant 47 ans, mais en tout cas, ce que nous dit ces calculs-là, c'est qu'à cause de cette grande stabilité des batteries, on pourrait cycler beaucoup plus que ce qu'on imaginait. On imaginait, il n'y a pas si longtemps, autour de 400-500 cycles. Vous voyez, là, on est trois fois plus. Alors, justement, parce que comme ça fait beaucoup, on pourrait imaginer que sur les 1750, on consacre 850 pour soi. Voilà. Donc on ferait 300 000 km, on garderait une voiture 20 ans. C'est beaucoup, mais. Enfin, moi, j'ai gardé une vieille bagnole pendant je ne sais pas combien d'années. C'est, ça allait. Et puis, les 900 cycles, vous les consacrez à la flexibilité. C'est-à-dire, à nouveau, vous acceptez que, enfin, au moment approprié, on vous remet de l'énergie dedans et on vous la ressort. Bah, j'ai fait le calcul. Hein. C'est quand même presque une quinzaine de térawattheures de stockage. Voilà. C'est assez considérable, ce système-là. Alors... Évidemment, là, c'est avec des hypothèses un peu extrêmes, c'est-à-dire que les 15 millions de véhicules jouent le jeu, voilà. Et peut-être avec encore une hypothèse 2 qui est un peu ambitieuse. Voilà, il faut que je termine. Le futur des batteries, il y a énormément de recherches. Jean-Marie Tarascon dirait ça beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en détail. J'ai deux, trois slides pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter la densité d'énergie, vous voyez, par rapport à mon équation de tout à l'heure. Il faut augmenter le delta X, il faut diminuer le M, la masse molaire, voilà, on joue là-dessus. Donc il faut des nouveaux matériaux. Il faut des batteries, passer peut-être des batteries à ion lithium aux batteries tout solides. Il y a le problème de l'éco-compatibilité des batteries. Il y a beaucoup de recherches pour améliorer les procédés, les faire des procédés de synthèse plus verts, des électrodes biosourcées. Il y a la révolution potentielle des batteries à ion sodium. Hein, là, c'est toujours un électron, mais c'est plus gros ou c'est plus petit que le lithium ? C'est plus gros, donc c'est pas bon. Donc ça sera surtout des batteries pour la puissance et pas tellement pour l'énergie. Mais évidemment, c'est important parce que là, il y a beaucoup plus de sodium que de lithium. Des batteries intelligentes, surveillance des batteries, autoréparation des batteries, et puis la question de la récupération et du recyclage. Et les grandes innovations qui sont en cours, c'est la batterie sodium-ion. Alors ça, c'est parce que, évidemment, vous voyez, sur la Terre, il y a beaucoup plus de sodium que de lithium, c'est beaucoup moins cher. Par contre, on aura beaucoup plus de puissance, donc là, on aura des recharges rapides. On aura des accélérations encore plus fortes, mais par contre en énergie c'est moins bon. Donc vous voyez, j'ai dit 300 watt-heure par kilo le maximum, ici c'est deux fois moins, donc c'est pas 500 km d'autonomie, c'est 250 qu'on aura, donc avec une sodium ion, mais ça sera plus propre, plus écolo, moins cher, etc. Lithium R, alors pourquoi c'est intéressant? Regardez, O2 plus 2 électrons. Là, on a le delta X qui passe à 2. Et là, tout d'un coup, on double hein, la capacité. Et puis les batteries tout solides, ça c'est parce qu'on a des batteries qui vont être plus compactes, plus denses en énergie. Donc on va gagner en énergie, vous voyez. 40% en watt-heure par litre et plus 60% en watt-heure par kilo. Bon, voilà. Ça, c'est Jean-Marie qui m'a dit de mettre ça. Aucune d'entre elles n'a atteint un état de maturation suffisant pour le moment, mais c'est de la recherche. Ça, c'est très bien. Néanmoins, voilà. Tiamat, il faut en parler. C'est quand même une... alors, je fais de la pub pour une boîte française, mais effectivement, la première annonce mondiale de commercialisation d'une batterie sodium-ion est française. C'est Tiamat. D'ailleurs, ça vient de tout ce consortium public-privé du réseau français des batteries électriques, du stockage électrochimique, centré à Amiens. Voilà. C'est Tiamat, donc on va avoir des batteries sodium-ion sur le marché. Alors on n'est pas les seuls, voilà, les Chinois y sont aussi. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.